Vous savez, avec l'arrivée de l'été, dans les magazines féminins se multiplient les tests. Je pense que ça doit être féminin parce que je vois chez nos enfants qui ont des abonnements d'enfants, dans les abonnements des filles, il y a aussi des tests, vous savez, des tests de personnalité, des tests pour savoir si vous êtes ceci, si vous préférez cela. Et moi, je vous propose un petit test ce matin. Alors, le petit test que je vous propose, je vais afficher un certain nombre de propositions les unes derrière les autres. Et je vous propose de cocher dans votre tête les propositions qui vous semblent correspondre à vous, à votre tendance. Il y a une dizaine de propositions, et puis, ben voilà, à la fin, on comptabilise, mais c'est purement personnel. Hein. Première proposition, j'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur. Deuxième proposition, je m'agite et je m'active, mais j'ai toujours le sentiment que c'est insuffisant. Troisième proposition, personne ne peut m'aimer sincèrement. Quatrième proposition, j'ai l'habitude de râler, critiquer ou me plaindre. Je sais que je ne devrais pas, mais c'est plus fort que moi. Si ça va mal, je ne veux pas en porter la responsabilité. Ce n'est pas de ma faute, c'est la sienne. Je m'angoisse vite. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais répondre aux attentes de Dieu. Je ne trouve pas ma place, mais c'est parce que je ne suis douée en rien. Si vous avez répondu, coché, alors moi je vous avoue, j'en ai coché au moins une, voire deux. Et je me rends compte que si je regarde en arrière, il y a plusieurs époques où j'en aurais coché plus. Mais ça me rassure de me dire qu'au fur et à mesure des années, finalement, il y en a quelques-unes qui se sont décochées et qui se recochent très ponctuellement, mais pas comme tendance. Mais si vous avez coché plusieurs de ces propositions, ou même une comme moi, alors ce qui va suivre est aussi pour vous. Et si vous en avez coché plus de cinq, je prie vraiment que le Seigneur vous visite. Parce que ces attitudes, ces tendances, ce sont celles, non pas d'un enfant de Dieu, mais d'un enfant de Dieu qui se comporte encore comme un esclave. Et c'est mon thème ce matin, d'une mentalité d'esclave vers une mentalité de fils et de fille. Pourquoi ? Parce que nous avons besoin d'apprendre, le Seigneur a besoin de nous apprendre à vivre ce que nous sommes. Ça peut sembler incroyable, mais nous avons besoin d'apprendre à vivre ce que nous sommes en Christ, pleinement, à comprendre les implications de ce que nous sommes en Christ. Et la position que j'aimerais qu'on examine ensemble ce matin, c'est celle d'enfant de Dieu, de fils et de fille. Je voudrais prier. Seigneur, tu as des choses à nous dire ce matin. Et je voudrais te prier pour que tu ouvres nos cœurs à la voix de ton esprit et que tu parles à nos cœurs. Seigneur, que nous puissions ouvrir ta parole et ne pas repartir comme avant. Seigneur, que nous puissions te croire quand tu nous promets des choses. Et Seigneur, que nous puissions être émerveillés de ta grâce dans nos vies. Amen. Et je vous propose de lire un texte qui se trouve en Romains 8. Romains 8, verset 14 au verset 16. En effet, Romains 8, 14, en effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. C'est inclus dans fils. Et vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lesquels nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin de prendre aussi part à sa gloire. Ce texte nous dit qu'une des missions du Saint-Esprit, c'est de convaincre notre cœur de notre position d'enfant de Dieu, aimé, précieux pour le Père. Parce que c'est peut-être pas si évident pour nous. On le sait, mais est-ce qu'on le vit? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on se sent enfant de Dieu, fille et fils? Et c'est un travail important du Seigneur et du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que ce que je crois dans mon cœur, c'est ce qui détermine ma façon d'agir et de réagir. Et ça, c'est fondamental, je pense. Ce que je crois dans mon cœur, c'est ce qui détermine ma façon de réagir et d'agir. C'est pas ce que je sais. C'est ce que je crois au fond de moi, qui guide la plupart de mes actes, de mes choix. Or, quand nous venons au Seigneur, notre cœur a généralement été déjà pétri. Je ne dois pas parler assez fort. Notre cœur a déjà été pétri par une vie marquée par le péché. Par notre péché, mais aussi par le péché des autres, de nos parents, d'autres personnes autour de nous. Et une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous aider à changer certaines croyances de notre cœur et à placer la vérité de Dieu. Alors, ce texte est tiré d'une lettre de Paul aux Romains, comme son nom l'indique. Je vais essayer de parler plus fort pour que ça ne résonne pas trop. Et donc, des habitants, des chrétiens qui habitaient à Rome. Et vous savez, je pense que pour les Romains, ce texte avait une résonance particulière, parce que l'adoption dans le droit romain, c'était une pratique assez courante. En particulier chez les sénateurs, chez les personnes assez importantes, qui avait du patrimoine, parce qu'elle visait alors à trouver un héritier. Et des personnes qui n'avaient pas d'héritier pouvaient, dans le droit romain, choisir un enfant, un fils, dans une autre famille, ou même parmi les esclaves, pouvaient choisir un héritier. Et il l'adoptait, ça devenait son fils, il prenait son nom, il devenait héritier de tout son patrimoine, et aussi héritier de l'autorité paternelle. La définition, il y avait une définition de cette pratique au IIe siècle qui était l'acte par lequel un étranger est introduit dans une famille pour y jouir des droits d'enfant et d'héritier. L'acte par lequel un étranger est introduit dans une famille pour y jouir des droits d'enfant et d'héritier. Et il arrivait, comme je l'ai dit, que même un esclave soit ainsi adopté et passe du statut d'esclave à celui de fils héritier. C'est ce qu'on voit, vous savez, dans l'histoire de Bénure. Bénure qui s'est retrouvé en esclavage dans une galère romaine, qui sauve un tribun, je crois, je ne sais plus ce qu'était. Et il est adopté par lui. Et il prend sa fortune, son nom, il change de nom, grâce à cette adoption. Quel contraste pour un esclave qui se retrouve ainsi adopté. Au moins à trois niveaux. Premier niveau, il se retrouve d'une position d'infériorité, parce qu'un esclave, en particulier à l'époque, ça n'avait aucun droit. Le maître avait droit de vie ou de mort. L'esclave, il n'avait qu'une valeur marchande liée à son rendement. Et il passe de cette position, mais vraiment au bas de l'échelle, où il ne vaut rien du tout, à la position de fils de la maison, héritier des biens familiaux, de l'autorité paternelle. On lui doit le respect. On ne peut plus disposer de sa vie comme on l'entend. Quel changement! Quel changement aussi de passer finalement d'une situation qui génère la crainte, la peur, à une situation de sécurité. Une situation où il n'a plus peur d'être battu, ou même tué, où il ne dépend plus du bon vouloir des maîtres. Il est en sécurité. Et troisième niveau, de la passivité à l'action. Alors quand je parle de passivité, ce n'est pas qu'il ne faisait rien, mais c'est qu'il subissait. Il n'était pas acteur de sa vie. Avant, en tant qu'esclave, il subissait la volonté de son maître. Son rôle, c'était d'obéir au doigt et à l'œil, sans réfléchir, sans chercher à comprendre, sans aucune liberté d'action. En devenant fils, il devient participant à ses décisions, acteur de sa vie. Il peut enfin choisir de faire ou de ne pas faire. Et je me suis dit, un esclave qui se retrouve du jour au lendemain dans ce statut, eh bien, ça doit lui prendre du temps pour s'habituer à cette nouvelle position et pour ne plus se comporter ou ne plus se ressentir comme un esclave. Et Paul dit aux Romains, ne restez plus, ne conduisez plus comme des esclaves. Vous avez reçu, non pas un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption. Et parce qu'il sait que ce n'est pas évident de passer d'un état à un autre, l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il faut du temps, parfois, pour apprendre à vivre une nouvelle situation, une nouvelle position. Et en même temps, il y a un paradoxe. Je me dis, les Romains, quand ils sont arrivés à ce stade-là de leur lecture, ils ont dû dire, c'est quand même curieux. Parce que quelques chapitres avant, en Romains 6, 22, Paul leur a dit, « Mais maintenant, étant affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de Dieu. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Esclaves de Dieu. Et deux chapitres plus tard, il leur dit, « Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais un esprit d'adoption, vous êtes des fils et des filles. » Oui, bien sûr, nous sommes esclaves de Dieu dans le sens où Dieu est devenu notre maître et que le but de notre vie doit maintenant être de faire sa volonté. Parce que faire sa volonté, c'est le seul chemin de vie possible. Mais pas à la manière d'un esclave. Comme un fils, comme une fille. Pas n'importe quel enfant. Un héritier. Celui qui doit hériter de tous les biens, de l'autorité paternelle, partager sa gloire. Et vous savez, on retrouve ce paradoxe dans l'évangile de Jean, quand Jésus, au chapitre 13, il lave les pieds des disciples, et il leur dit, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Et le serviteur n'est pas plus grand que le maître, donc faites ce que moi je vous ai fait, faites-le vous aussi les uns aux autres. » Et là, il leur replace bien leur position de serviteur et sa position de maître et seigneur. Et deux chapitres plus tard, là encore, en 15-15, il dit « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son seigneur. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon père. » Et la différence, elle est fondamentale, que ce soit dans ce texte de Romains ou dans ce texte de Jean. La différence, c'est une relation offerte. Parce que ce que Dieu désire par-dessus tout, ce n'est pas des serviteurs ni des esclaves. Il a des milliers d'anges qui le servent à chaque seconde. Et sûrement mieux que nous. Ce que Dieu désire par-dessus tout, c'est une relation avec nous. Une relation d'amour et de confiance et une relation à double sens. Et c'est pour ça que Jésus leur dit, « Je vous ai appelés amis parce que je vous fais connaître. » Le maître à son esclave, il lui demande d'obéir, il ne lui explique pas pourquoi. Il dit, moi je vous ai fait connaître ce que j'ai appris du Père. Le plan de Dieu, les projets de Dieu, il les partage avec nous. Alors vous avez reçu le salut en Jésus-Christ par la repentance et une conversion de cœur et de vie. Eh bien la Bible affirme que Dieu vous a adopté comme son fils héritier, comme sa fille héritière. Et il a mis son esprit en vous comme signe d'appartenance. Vous savez, c'est un peu comme l'anneau dans le récit du fils prodigue. Le père, il attend ce fils qui est parti, qui a tout rejeté en bloc. Et quand le fils revient, le père se jette à son cou, il lui remet une belle robe et il lui donne un anneau. Et l'anneau, c'était le signe de son appartenance, c'est le signe de la maison, qui fait partie de la famille, qui n'est pas parmi les serviteurs. Vous savez, c'est un peu comme le sceau ou les armoiries d'une famille. Le Saint-Esprit, c'est notre signe d'appartenance pour que nous puissions nous sentir filles et fils de Dieu. Et dans ce même récit du fils prodigue, il y a un autre fils. Lui, c'est le fils aîné. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ce fils-là, il se comporte comme un serviteur. Et quand il reproche à son père, dire « Mais moi, tu ne m'as pas offert une belle fête, un beau veau gras pour moi, je travaille pour toi tous les jours, dur, et tu ne me donnes rien. » Et le père lui dit « Mais tu étais tous les jours avec moi, tout ce que j'ai est à toi. » Autrement dit, tu aurais pu faire une fête quand tu voulais. C'était à ta disposition. Et pourtant, tu t'es comporté comme un serviteur. Et moi, je pense que ce fils, il est l'image des chrétiens que nous sommes, où nous avons tellement de mal à nous comporter comme des fils et des filles de Dieu avec Dieu. Passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de fils et de fille. Si j'avais mis une autre diapo, c'est pas encore. Et passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de fils et de filles, c'est comme pour cet esclave dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est passer d'abord d'un statut d'infériorité, de l'infériorité à l'honneur. On est parfois avec une mauvaise image de nous-mêmes, avec un mauvais sentiment de valeur ou de dévalorisation. On ne se sent pas à la hauteur. Et pourtant, la Bible dit que Dieu veut nous honorer, nous élever, nous donner une immense valeur. La preuve, je deviens fils héritier, co-héritier avec Christ, ça veut dire sur le même plan. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Ça fait penser à ce verset dans Jean 17, 23 où Jésus prie pour nous. C'est dans ce passage où il dit « Je prie pas seulement pour mes disciples, mais pour tous ceux qui croiront, donc pour nous qui sommes là. » Et il dit « Que le monde reconnaisse que tu les as aimés, comme tu m'as aimé. » On est aimé comme Christ est aimé du Père. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça signifie? Dieu veut nous donner une place d'honneur. Psaume 91, verset 15, il est dit « À celui qui est attaché à moi, il fera appel à moi, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. » C'est incroyable. Dieu a prouvé la valeur et l'importance que nous avons à ses yeux, le prix de son amour. En Romains 5, 8, il est dit « Dieu a prouvé son amour envers nous en ce qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. » Et Dieu n'a pas voulu s'acheter des serviteurs. Je l'ai dit, il a déjà des milliers d'anges qu'il sert, des millions qu'il servent, 24 heures sur 24. Dieu a voulu retrouver une relation d'amour et de confiance comme un père avec son enfant. Et pourquoi j'ai tant de mal à y croire? D'abord, un, parce que souvent j'ai une mauvaise image de ce que c'est que le père, que Dieu en tant que père. Et même si j'ai eu un bon père, il n'était pas parfait. Et forcément, si je plaque l'image de mon père sur Dieu en tant que père, j'ai beaucoup de mal à comprendre et à croire tout cela. Mais ça aussi, c'est le travail du Saint-Esprit. Non seulement de nous convaincre quel enfant on est, mais de nous convaincre de quel Père nous avons dans les cieux. Et notre Père céleste n'est pas notre Père terrestre, aussi bon qu'il ait pu être. Je suis aimée et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, même quand je ne fais rien. Ça, c'est un pavé, des fois, qu'on jette un peu dans la mare. Mais oui, pourquoi? Parce que je suis aimée pour ce que je suis et non pour ce que je fais. Et je voudrais vous partager avec vous une petite BD que j'aime bien. J'ai découpé dans un journal, ni ce matin, je crois. C'est une famille. Et puis, il y a le garçon qui joue avec le papa aux boules. La petite fille est assise à côté de la maman. Et puis, le papa lui dit « À toi, Anna, Anna !» Donc, elle se lève, elle prend ses boules. Et puis elle avance avec ses boules pour jouer et lui dit « Montre-nous ce que tu vaux !» Puis Anna, elle fait demi-tour. Elle se pose ses boules et elle dit « J'aime pas qu'on me demande de montrer ce que je vaux !» Alors elle s'assoit et dit « Je vais rester assise là, comme la Joconde qui fait rien et qui vaut beaucoup. » Alors le papa lui dit « Mais ce qui fait la valeur de la Joconde, c'est aussi qu'elle est de Léonard de Vinci. » Et la petite fille se tourne vers son père et dit « Ah, et qu'est-ce qu'il vaut l'auteur de mes jours à moi ? Qu'est-ce qu'il vaut l'auteur de mes jours à moi ? Je suis aimée et j'ai de la valeur aux yeux de Dieu, même quand je ne fais rien. Je peux être assise là et ne rien faire comme la Joconde qui vaut beaucoup, et valoir même beaucoup plus que la Joconde. Valoir le prix d'un enfant de Dieu. Ma fierté est en Dieu mon Père. Et vous savez, la première fois que j'ai vraiment entendu le Saint-Esprit, comme dans ce passage, crier en moi, Abba Père, et me dire, tu es mon enfant. C'était il y a plus de 20 ans maintenant, une vingtaine d'années. Et c'était dans une période où j'avais repris conscience d'une souffrance qui était là, une faille. Malgré moi, j'allais dire, c'était pas que j'avais subi un traumatisme quelconque, mais c'est simplement de ce que j'avais toujours appris et su, que ma conception n'était pas très bienvenue. Et donc, je n'étais pas un enfant désiré. Par contre, j'ai été une enfant aimée. Ça, c'était pas... J'en ai pas douté. Mais curieusement, comme si ce fait d'être arrivé là alors que personne ne l'avait décidé, était une blessure. Et qui avait tendance à me pousser à vouloir prouver que j'avais le droit d'être ici, d'exister. Et ma façon de le prouver, c'était qu'il fallait que je sois la meilleure en tout. Et ça me mettait une pression énorme. Et un jour, j'ai lu des versets où Dieu m'a dit, je t'ai choisi, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai tissé dans le ventre de ta mère. Vous connaissez ces versets? Tout à coup, vous savez, ça apparaît en lettres de feu. Et j'avais vraiment l'impression que Dieu me disait ça. Je suis ton vrai père. Celui qui t'a voulu, celui qui t'a désiré, celui qui t'a conçu. Et si tu es là, t'as rien à prouver. Parce que moi, je t'ai voulu et ça, ça suffit pour que tu aies le droit d'être là sur cette terre. Et ça a été une forte expérience pour moi. Ce jour-là, il y a un fardeau. Il en a ôté bien d'autres depuis, mais ce jour-là, il y a un fardeau qui est tombé de mes épaules. Et ce jour-là, je crois que c'est à partir de ce jour-là, pour la première fois, où j'ai pu prier en commençant par Père Céleste. Parce que ça voulait dire quelque chose vraiment pour moi. C'était pas un concept. Alors lisons et relisons ces incroyables affirmations de la parole. Laissons le Saint-Esprit nous convaincre. Et choisissons de croire Dieu. Nous pourrons alors passer de la crainte à la confiance. Romains 8, 15. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Nous n'avons plus à être dans la crainte, nous sommes dans une position de sécurité. Pourquoi ? D'abord parce que je suis aimée inconditionnellement du Père. Je vous l'ai dit, Dieu nous aime même si on ne fait rien. Ça ne veut pas dire qu'on n'a rien à faire. Mais que son amour ne dépend pas de ce qu'on fait, mais de ce qu'on est. Je suis aimée inconditionnellement du Père. Quoi que je fasse, quoi que je dise, je suis aimée. L'apôtre Jean dit en 1 Jean 5, 18, il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, et Dieu est l'amour parfait. Car la peur implique une punition. Mais moi, je n'ai pas peur de la sanction de Dieu. Elle est tombée sur Christ. Je suis aimée. Ce que Dieu attend de moi, avant toute autre chose, c'est mon cœur. Ce n'est pas mes actes. Une relation vraie, à double sens, une relation d'amour et de confiance. Alors, deux conséquences dans ma vie. Je n'aurai plus peur de perdre l'amour de Dieu ou de ne pas être à la hauteur. À la hauteur de quoi ? De l'amour de Dieu ? J'y suis déjà. Et je n'aurai plus besoin de gagner l'estime de Dieu ou des autres, de chercher à gagner l'estime de Dieu ou des autres. L'estime de Dieu. Mais Dieu m'honore, Dieu veut m'élever. C'est incroyable. Une relation vraie, à double sens. Voilà ce qu'il attend de moi. Deuxième chose, dans cette position de sécurité, j'ai un Père qui est tout puissant et qui prend soin de moi. Vous connaissez bien ces textes de Matthieu 6. Regardez les oiseaux du ciel. Il ne sème pas, ne moissonne pas, n'amasse rien dans les greniers, et votre Père céleste est nourri. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Encore cette notion de valeur, on a du prix aux yeux de Dieu. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 7:11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Matthieu 10, 29-31. Ne vantons pas deux passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez beaucoup plus que des passereaux. J'ai un Père qui est tout puissant, qui tient tout dans sa main et qui prend soin de moi et aux yeux duquel j'ai de la valeur. Et la troisième conséquence, c'est que je vais pouvoir passer de l'agitation à la réactivité au calme et la confiance. Au lieu de m'agiter, de réagir, dirigé par mes émotions ou mes blessures passées, je peux être dirigé par l'Esprit de Dieu, consciente de la sécurité que j'ai dans ma position Christ. N'oubliez pas, ce que mon cœur croit détermine ma façon de réagir et d'agir. Si mon cœur se repose avec assurance sur sa position en Christ, ça changera ma façon d'agir et de réagir. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, dit Paul en Philippiens. Et ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Et c'est pas dit, et tout sera résolu. C'est dit, et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Confiez, et la paix de Dieu gardera vos cœurs en Jésus-Christ. Troisième chose, et dernière. Cela nous permet de passer de la passivité à l'action. Je ne suis plus condamnée à subir passivement. Je peux devenir actrice, acteur de mes choix, de ma vie. Je peux choisir la vie. Vous savez, il y a ce texte dans Deutéronome 30:19 qui dit « Voici, je mets devant toi le mal et le bien, la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. » Et vous savez, la tendance de la nature humaine, si on ne fait pas un choix, c'est de prendre un chemin de mort. Choisir la vie, c'est pas dans la nature humaine. On fait pas les bons choix. Mais si le Saint-Esprit vient faire son œuvre en moi, il me rend capable de choisir la vie. Je ne subis plus passivement. Je ne suis plus dépendant de mon passé, de mes émotions, de mes désirs. Mais je peux être conduit par l'Esprit de Dieu. Et choisir. Alors j'agis et je prends mes responsabilités. Je ne cherche plus à changer les autres, mais je permets à Dieu de me changer moi. Et le moteur de mes actions, de mon engagement, de mon service, ce n'est plus la crainte, il faut, sinon, non, c'est l'amour et la reconnaissance. Et vous savez, on le voit avec nos enfants. Quand c'est la crainte de la punition, ils ne rendent pas les services de la même façon que quand ça vient de leur cœur. Et qu'ils ont envie de vous faire plaisir. Et que le matin, ils vous disent « Attends, descends pas, on prépare le petit déjeuner. » Ils vous ont fait un truc fantastique. Ils ont tout sorti, tout mis la table, tout fait la cuisine. Simplement parce qu'ils ont envie de voir vos yeux briller de plaisir. Puis à midi, vous leur dites « Tu peux juste mettre la table. » « Ah non, on n'est pas vos esclaves. » C'est curieux quand même. Pourtant, on leur demande moins que ce qu'ils ont fait le matin. Le moteur, ça change tout, hein. Le moteur dans la vie chrétienne, ce n'est pas la crainte, c'est l'amour et la reconnaissance. Nous l'aimons car il nous a aimés le premier, 1 Jean 4:19. Et l'amour envers Dieu consiste à respecter ses commandements. Or, ses commandements ne représentent pas un fardeau, 1 Jean 5:3. Et pourquoi ce n'est pas un fardeau? Parce que c'est un chemin de vie et parce que ce qui doit être le moteur, c'est l'amour et la reconnaissance. Et ça change tout. Et Dieu nous rend participants de cette vie. Il nous explique ses projets. Il veut collaborer avec nous. On ne subit pas. On est partenaire avec Christ. En conclusion, je crois que l'un des premiers chantiers de notre vie chrétienne, c'est ce changement de mentalité. Notre nature pécheresse a tendance à nous maintenir dans une mentalité d'esclave. Et le travail du Saint-Esprit, c'est une rééducation des croyances de notre cœur. Notre cœur est boiteux. Il a appris des choses au cours de son enfance. Il a fait des mauvaises déductions. Et le Saint-Esprit a besoin de venir démasquer les mensonges qui nous guident et mettre sa vérité. Nous faire prendre conscience de notre identité en Christ, de notre valeur, de notre position, pour passer d'une mentalité d'esclave à une mentalité de fils et de fille. Alors nourrissez votre esprit des promesses et des affirmations de Dieu, afin de laisser son esprit murmurer à votre cœur jour après jour combien vous êtes aimé, combien vous êtes précieux et quelle est votre position en Jésus-Christ. Développez votre intimité avec Dieu. Il aspire à cette relation d'amour. Parlez-lui, écoutez-le, apprenez à le connaître. Lisez la lettre qu'il vous a écrite. Ouvrez les yeux sur son intervention dans votre vie et soyez remplis de reconnaissance et d'amour pour que ce soit le moteur de votre vie. Et surtout, ne vous contentez pas de croire en Dieu. Faites le choix de croire Dieu. Refusez les mensonges de l'ennemi, même s'il vous les souffle depuis votre enfance. Croire Dieu. Quand il vous dit que vous êtes fils et fille de Dieu, que vous êtes héritier, co-héritier de Christ et de la gloire de Dieu. Quand il vous dit que vous êtes honoré par Dieu, en sécurité dans son amour, même quand vous ne faites rien. Appelé à représenter votre Père céleste sur cette terre.